Ce matin, j'aimerais vous apporter cette pensée que j'ai eue au cours de cette année, de ce mois-ci, pardon. Et un mot qui a retenu mon attention dans mes lectures, c'est un tout petit mot, premièrement. Premièrement. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui peut nous surprendre, mais il y a toujours une première fois. Et j'ai regardé un petit peu dans combien de fois il y avait le mot « premièrement » dans les évangiles. Entre 16 ou 17 fois. Et donc, j'aimerais ce matin vous parler de ce « premièrement ». Des priorités. Qu'est-ce que vous faites tous les matins quand vous vous levez? C'est systématique. Qu'est-ce que vous faites premièrement? Pardon? T'ouvres les yeux. Ah, d'accord. Tu fais une tasse de thé. L'autre, c'est un café, le déjeuner. D'autres, ils vont faire la toilette ou la douche. C'est un rituel. On a des rituels. Et on a toujours un premièrement. Un premièrement. Oui, les priorités. La parole de Dieu nous enseigne que nous aurons à faire certaines choses premièrement. Notre cœur naturel nous porte à accomplir en premier lieu tout ce qui est conforme à nos intérêts et à nos désirs, en quelque manière que ce soit. Nous ne faisons pas les choses par hasard. Il y a ce rituel qui nous met dans l'habituel, qui nous met dans la routine, qui nous met dans quelque chose qui nous paraît être important, important pour notre équilibre. Et on voit au cours de la lecture de nos textes, et nous en ferons quelques-uns ce matin, qu'il y a eu des premièrement chez certaines personnes. Et c'est ainsi qu'un des disciples du Seigneur lui a dit « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père » dans Matthieu chapitre 8 au verset 21. C'était pour cet homme quelque chose d'important, quelque chose de prioritaire. Et c'est vrai qu'il pouvait aller ensevelir son père comme un autre aussi, prendre congé de ceux qui étaient dans sa maison, dans Luc, chapitre 9, verset 61. Et cela semble bien être une chose naturelle. La parole même nous montre quels sont nos devoirs envers nos parents. Et ce serait grave d'en faire peu de cas. Toutefois, il nous apparaît à la lecture qu'il n'était pas convenable d'y aller premièrement. Ça nous choquerait et ça vous choque peut-être ce matin. Il fallait d'abord suivre Christ. N'oublions pas ce que Jésus avait pu dire, « Suis-moi ». Dans la vie, il y a des choix que nous devons faire. Et vous le savez bien. Nos choix n'ont pas toujours été une réussite, n'ont pas été un succès. Certains l'ont été, heureusement. Je voudrais dire ce matin que le Seigneur a sur nos cœurs des droits absolus. Et c'est lui qui doit passer en premier. Premièrement. Alors, j'ai mis entre parenthèses, si cette expression nous est permise, est-ce que nous-mêmes, nous faisons passer le Seigneur en premièrement? même à l'égard de ceux auxquels nous avons des devoirs à remplir. Rappelez-vous cette parole de Matthieu, de Jésus, dans Matthieu chapitre 10, verset 37. « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Bon. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors c'est vrai que quand on prend ces versets d'une manière, on les sort du contexte, on les dit brutalement comme je viens de le faire, waouh, c'est dur. C'est même, j'allais dire, inacceptable, puisque Dieu nous demande d'aimer. Et que celui qui n'aime pas son père et sa mère, il n'est pas digne non plus. Alors, c'est compliqué, hein ? On a l'impression que Jésus nous complique un petit peu la vie, mais comprenez ce que Jésus veut dire. Jésus établit, j'allais dire, un principe qui devrait nous guider constamment dans notre vie pratique, notre vie de tous les jours, afin qu'en toute chose, lui, le Seigneur, il tienne la première place. Et la première place dans nos cœurs. C'est ce que Paul dira un peu plus tard dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Et pour étayer cela, nous allons prendre un exemple que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 17. C'est la veuve de Sarepta. Je pense que tous, à peu près, vous connaissez le récit de cette femme. Il est intéressant, instructif, et il nous faut chercher dans la parole de notre Dieu quelques-unes de ces choses qui nous exhortent, nous, à faire le premièrement. Nous avons besoin d'exemples concrets. Et là, dans ce texte, nous avons ce qu'il faut. Il y a dans le pays de cette femme la famine. Ils avaient plus que la canicule que nous avons connue. Il y avait une sécheresse qui tuait non seulement les animaux, mais aussi les hommes. Il n'y avait plus de plantations, il n'y avait plus d'arbres. Il n'y avait plus rien. Peut-être la situation que nous avons vécue ces jours derniers, sans doute nous aide à mieux comprendre ce que cette femme a pu vivre et peut-être de sympathiser, j'allais dire, à sa détresse. Quand pour vivre on n'a plus grand-chose qu'une poignée de farine, qu'un peu d'huile, rien d'autre. Et je me pose la question aujourd'hui, qui d'entre nous, si pauvre soit-il de ressources, peut-être à l'extrémité ou réduit à l'extrémité comme cette femme. J'ai connu des moments difficiles, mais je n'ai pas connu des moments comme cette femme. Et peut-être que nous aussi, nous avons peut-être connu des moments difficiles, très difficiles, mais pas comme cette femme. Et la Bible nous dit qu'elle avait un fils. Et j'imagine l'angoisse pour cette mère. Son cœur étreint par le manque, pour ne pas pouvoir nourrir son fils. Pour elle, il n'y a plus d'espoir. Lorsque ses maigres provisions seront épuisées, elle dit tout simplement, nous allons les consommer et demain nous mourrons. C'est ça l'extrémité. Nous serait-il venu à l'idée qu'on aurait pu demander du secours quelque part? La Bible ne le dit pas. Mais le paradoxe de la parole de Dieu, c'est que on nous dit que elle va devoir pourvoir aux besoins d'un étranger. Et que par conséquent, au lieu de penser à elle et de penser à son fils, elle devait penser au prophète de l'Éternel. Situation bien compliquée. Décision difficile à prendre. Quand le prophète lui dit « Fais-moi premièrement », d'autres traductions diront « d'abord », « Fais-moi un petit gâteau ». Rien que ça. Un petit gâteau en plus. Ben oui, la farine, on peut faire des gâteaux. Bon, on aurait pu faire un bout de pain quand même. Hein. Non, un gâteau. Et apporte-le-moi. Après, tu feras pour toi et pour ton fils. Je vous pose la question ce matin. Qu'auriez-vous fait, vous? Ne me répondez surtout pas. Vous gardez la réponse dans votre cœur. Mais je vous le dis ce matin, qu'auriez-vous fait? Et certainement, vous êtes trouvé dans des situations peut-être pas extrêmes comme celle-ci. Mais vous avez dû choisir. Ce premièrement me choque. Ce premièrement m'est difficile pour moi. Que va répondre mon cœur humain? Oui, certainement, je le ferais volontiers, mais si j'avais beaucoup plus. Mais là, j'ai trop peu. Mais vraiment trop peu. C'est même pas le nécessaire. Et lui, cet étranger, il me dit fais-moi un gâteau. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Eh ouais. C'est bien selon la nature, et c'est en fait la première réponse de cette femme. Elle dit j'ai qu'un peu de farine, puis un petit peu d'huile. L'air de dire, tu vois bien, je ne peux rien faire pour toi. Quoi. Eh oui. Mais avant de penser à elle et à son fils, il convenait de penser à l'Éternel, à ses droits, à son service. Quelle instruction pour nous, mes frères et sœurs. Nous sommes tellement portés à songer à nous d'abord, en premier. Et puis, s'il en reste le superflu, alors oui, on peut le disperser, on peut le dispenser à qui on veut. On peut donner, quand on a ce qu'il faut, quand on a plus ce qu'il faut, on peut donner de ce superflu. Vous vous rappelez ce mot superflu dans l'Évangile? Vous vous rappelez à quelle occasion? Pardon? Oui, mais il y a aussi autre chose. Ben, le tronc, la veuve, là. Il dit, vous mettez le superflu dans le tronc. Mais elle a mis le nécessaire. Ah ouf. C'est pas souvent comme, c'est pas comme ça qu'on raisonne? Oui. Est-ce que le Seigneur ne voudrait pas mettre nos cœurs à l'épreuve? Est-ce que nous pouvons nous passer du Seigneur? J'ai entendu ce matin, nous sommes bénis. Alléluia, et nous apprécions ce privilège. Et j'espère que vous l'appréciez, ce privilège. Vous considérez-vous béni? Je vois, oui. Vous pouvez tous dire oui, hein. C'est pas interdit. Oui, nous apprécions ce privilège extraordinaire d'être béni pour que Dieu pourvoie. Hein, j'ai entendu ce matin, Charlotte, ça y est, je suis embauché, j'ai un travail. Hein, j'en connais d'autres aussi qui ont trouvé du travail. Et puis d'autres qui travaillent, c'est quand même un privilège extraordinaire par les temps qui courent, non? Hein, on a plusieurs au milieu de nous qui ont trouvé du travail et on bénit le Seigneur pour cela. Grâce de Dieu. Même pour ceux qui n'ont pas perdu de travail et qui continuent à travailler. Remerciez Dieu pour le travail que vous avez. Oui, nous sommes des privilégiés. Et puis, s'il en était besoin, rappelons-nous que Dieu ne restera jamais notre débiteur. La promesse est au verset 14 qui nous rend au centuple ce que nous lui donnons. Et connaissant cette parole du premièrement, en ayant les promesses divines, quelle va être maintenant notre conduite? Il nous est dit, la veuve de Sarepta fit selon la parole d'Élie. Et dans cette mesure, imitons-nous l'obéissance à la foi. Parce que là, il est bien question de foi et pas d'autre chose. Dieu teste notre foi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne sera jamais notre débiteur. Mais elle fit selon la parole d'Élie. Alors, si nous avons à cœur de donner premièrement, c'est au Seigneur que nous le faisons. Pas à l'homme, mais au Seigneur. Même si l'homme est son intermédiaire. Dieu ne demande simplement que ce qui lui est dû, pas plus. Et nous aussi, nous ferons l'expérience qu'a fait cette veuve il y a 30 siècles maintenant, car notre Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne manqua pas, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite à Élie. Respectons le Seigneur, respectons ses droits. Entrons dans son service, parce que nous sommes, vous et moi, ses serviteurs. Rappelez-vous cette parole qui a été écrite dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Tant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de ceux-ci, qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. Et cela doit passer avant nous-mêmes, avant nos propres besoins. Puissions-nous. Ou le jour où cela pourra nous arriver, ça vous est peut-être déjà arrivé, vos ressources sont réduites. Eh bien, de ne pas être tenté d'oublier ce premièrement. Nous allons passer à un autre. Ça va, je ne vous ennuie pas ce matin? Ah oui, c'est un peu dur, hein? Pour une rentrée comme ça, là, bouh! Ah ben, il faut rentrer tout de suite dans le bain, hein? Oui. Ah non, mais vous n'aurez pas de l'évangile à l'eau de rose, hein, ici, hein, vous le savez, hein? Pas avec moi, toujours. Un autre texte qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est un autre exemple bien connu qui se trouve à la fin du sixième chapitre de l'évangile de Matthieu, utile à considérer dans un temps où nous craignons de manquer de tout, alors que nous devrions pouvoir dire avec David, « L'Éternel est mon berger. » Qui c'est qui peut me dire la suite ? Dites-le tous à haute voix, là. Vous êtes timide ce matin ? Vous êtes timide ? Dites-moi la fin. Oh là là, et c'est encore plus bas. On va vous mettre tous un micro hein, bientôt. Hein. Et je ne... Ah, il fallait que je vous aide un peu. Hein. Alors dites-le sans que je le dise. Et c'est vous qui l'avez dit. Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous croyez ce que vous venez de dire hein, parce qu'il ne faut pas répéter les choses comme des perroquets. Hein. Non, non. Vous répétez la parole de Dieu. Oui, c'est sûr, mais... Est-ce que vous êtes convaincu que vous ne manquerez de rien s'il vous arrive qu'un jour, eh bien, vos ressources soient réduites ? Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous l'avez expérimenté, cela ? Oui. Moi, je sais que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et je bénis le Seigneur parce que sa parole, elle est vraie. Et vous savez, Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » La Bible nous dit « Les nations sont dans l'inquiétude et l'angoisse. Elles cherchent toutes les choses nécessaires à la vie ou à la survie. » Et la parole de Dieu nous enseigne que nous avons notre part à faire. Nous, en tant que chrétiens, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà ce que nous avons à faire, les uns et les autres, dans ce premièrement. Mais peut-être la question se pose à chacun d'entre nous, qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Et quel est ce royaume de Dieu que nous devons chercher ? Cette expression employée parfois pour indiquer seulement une dispensation qu'on trouve dans Matthieu chapitre 12, verset 28, et au chapitre 21, verset 43 par exemple, a ici surtout un sens moral. Il s'agit des caractères que doivent manifester ceux qui ont part au royaume, c'est-à-dire les droits du Seigneur, les droits de Dieu qui y sont reconnus, où chacun, en tant que chrétien, est soumis à Christ. Et comment entre-t-on dans le royaume de Dieu ? Ah ben oui, c'est un culte participatif, excusez-moi. Hein. Vous rentrez par la porte. Et qui c'est la porte ? Ah, tiens, voilà. Les paroles du Seigneur, Jésus et Nicodème. Vous vous rappelez cela ? C'est que le premier culte de rentrée, c'est un culte, c'est une piqûre de rappel simplement ce matin. Je suis déjà cet après-midi, moi. Hein ? Eh oui, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'est pas né d'eau, pardon, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Bon. C'est donc cette nouvelle naissance, par cette nouvelle naissance, que nous entrons dans le royaume et que nous serons ensuite rendus capables, parce que le Saint-Esprit agit en nous, il agit dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous pourrons manifester les caractères du Christ. Et les caractères du Christ, quels sont-ils ? Eh bien, Romains chapitre 14, versets 17 et 18, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Car celui en qui cela est, eh bien le Christ est agréable, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Christ sur la terre, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est venu sur la terre. Il est venu au milieu des hommes. Lui, le juste, il a pu dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc chapitre 17, verset 21. Actuellement, tandis que le roi a été rejeté, le roi des rois a été rejeté par la plupart des hommes et des femmes de ce monde. Pensons que nous ne sommes qu'une minorité, même si nous sommes des millions de chrétiens. C'est quand même une minorité par rapport aux 7 ou 8 milliards d'habitants qu'il y a sur la terre. Oui, ce roi rejeté. Et le royaume est caractérisé par la présence de l'Esprit. Et ce matin, l'Esprit est au milieu de nous. Nous ne voyons pas Jésus, mais son Esprit est au milieu de nous. Il est en nous. Alléluia. Sa vie est en nous. Son Esprit est en nous. Que son nom soit béni. Et il établira bientôt son règne de gloire en puissance. Et il reviendra sur la terre nous chercher, hein, comme il nous l'a dit tout à l'heure, César, êtes-vous prêt pour ce jour-là? Oui, il viendra. Il viendra et il règnera avec justice, nous dit Ésaïe chapitre 32, verset 1er. Mais durant ce temps, durant ces périodes, eh bien, il faut que la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit règne dans nos cœurs. C'est cela le royaume. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Avez-vous cette espérance dans votre cœur? Lavez-vous profondément. Est-ce que c'est ça qui vous motive? Est-ce que c'est ça qui vous fait vous lever le matin? Et qui vivre et de dire, mais malgré mes difficultés, malgré mes rhumatismes et l'imbago, hein, malgré mon mal de tête et mon corps aux pieds, oui, ce matin je me lève pour Christ, alléluia. Amen. Eh oui, c'est cela notre vie. C'est l'action puissante de l'Esprit en chacun de nous. Il faut que l'Esprit de Dieu vive en chacun de nous. Nous ne sommes pas là, les petits... Non, non. J'ai la joie de vivre. Alléluia. Et ça, c'est notre privilège, nous les anciens. Hein? Et on apprécie aujourd'hui, et on en discutait hier soir avec César et Madeleine, on disait, ben, quand on voit le chemin parcouru, à travers les épreuves, à travers les difficultés, après les peines, les souffrances, la douleur, la souffrance, la maladie, la perte de bien-aimés, eh bien on disait, Dieu il a toujours été fidèle. Dieu a toujours été présent. Dieu a toujours renouvelé les forces, même si on était en bas. Ça nous est arrivé d'être en bas, vous savez. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est toujours au zénith. Ah, oui, vous les pasteurs, vous êtes toujours là-haut, vous. Oui, mais il faut être aussi sur la terre. Et il faut aussi porter les peines de nos frères, de nos sœurs, partager avec eux, être en lien avec eux, être en communion avec eux. C'est aussi de la souffrance que nous partageons, que nous vivons. Mais en tout cela, nous avons vu la grâce et la bénédiction de Dieu se manifester. Et nous la voyons encore aujourd'hui. Et hein, quand nous, on a le privilège de l'âge, on se dit, que de chemin parcouru. Mais Dieu a toujours été fidèle. Et puis je peux vous dire, vous les jeunes, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais vous êtes jeunes par rapport à nous les autres. Hein. Alors Dieu va vous encourager et il va continuer à vous bénir et à enrichir votre vie. Oui, que Dieu soit béni. Oui, que tout cela se découle dans la paix. C'est pour ça que Jésus nous dit, cherchez le royaume, hein, le royaume de Dieu et sa justice, premièrement. Hein, c'est en vivant cette vie de l'esprit, montrer que nous sommes chrétiens, montrer que nous sommes nés de nouveau, Montrer que, eh bien, notre vie, elle est aussi en pratique. Pas seulement je suis chrétien, hein, j'ai une étiquette dans le dos. Ah oui, je suis baptiste, l'autre je suis pentecôtiste, l'autre je suis ist. Mais ça veut dire quoi ça? Je suis avant tout chrétien. C'est-à-dire j'appartiens au Christ. Alléluia. C'est vrai. C'est bon. Et puis, dans ce passage, il est dit, « Et toutes les choses vous seront données en plus. » Et nous, nous bénéficions des choses en plus. Alléluia. Amen. Des choses en plus. Le psalmiste avait déjà fait cette expérience. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Le psaume 34. Alors, on s'en fait encore un petit? Ça va? Vous n'avez pas envie de partir? Alors, on n'ira pas au bout de la prédication, hein, parce que je peux vous en sortir toute une liste. Mais on va aller un petit peu plus loin. Alors, en continuant notre lecture, et en continuant ma lecture, hein, au mois d'août, parce que les pasteurs, ils ne sont pas forcément en vacances. Hein. Je me souviens d'une sœur, il y a bien longtemps, qui me disait « Surtout, Gérard, tu ne nous apportes pas du réchauffé. » Alors, ça voulait dire, tu n'as pas ressorti une vieille prédication de ton casier, hein, pour nous la ressortir là, parce que tu n'avais pas envie de faire quelque chose. Mais bon, j'ai fait quand même quelque chose pendant les vacances. Hein. Et voilà. En continuant notre lecture et dans ce même évangile, nous trouvons un peu plus loin un troisième premièrement. Alors c'est dans Matthieu au chapitre 7. Alors les pasteurs là, on parle de quoi là? Matthieu chapitre 7, verset 3-5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Wow! Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Waouh! Nous connaissons tous la tendance de nos cœurs. C'est vrai qu'en vous regardant comme ça, vous tous là, vous êtes tellement gentil, tellement mignon, tellement beau, tellement agréable. Mais si je me regarde, moi, je me dis parfois, t'es le plus beau quand même. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Parce que quand je regarde à mon pauvre cœur, c'est vrai que j'ai quand même une fâcheuse tendance à regarder la paille qui est dans l'œil de mon frère. Alors une version dit le fétu. Alors pour les jeunes, si je leur dis fétu, ils vont dire qu'est-ce que... Papy, il utilise toujours des mots qu'on ne connaît pas, nous les jeunes. C'est vrai ça, hein, hein Sarah? Oui. Alors fétu, bah, c'est une petite chose. Hein, c'est un fétu de paille, c'est quelques brins de paille comme ça qui s'envolent au vent. Eh oui, bien entendu. Oui. Alors, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie, et c'est ce que je me dis à moi, qui veut se dire charitable, parce que je dois aimer mon frère, ma sœur, et je ne dois pas faire de différence, etc. Et je dois l'aimer charitablement, et puis... de lui dire, ben, mon frère, permets-moi d'ôter le fétu que tu as dans ton œil. Wow. Wow. Nous sommes disposés à le faire en tout premier lieu et bien souvent uniquement. Oui. Mais le Seigneur nous montre que nous sommes trop souvent occupés des autres et que nous perdons de vue le mal qui est en nous. Alors, je connais certains pasteurs, ils auraient dit, mais pas vous ici, ailleurs, mais pas ici. Hein? Mais ici, c'est comme ailleurs. Eh oui, nous sommes trop occupés à juger les autres. Nous perdons de vue que ben, nous aussi, hein, quand on montre du doigt, il y en a trois autres ou quatre autres qui nous désignent aussi en même temps. Alors c'est vrai, au lieu d'être occupé, premièrement, Dieu devrait nous dire, ôte premièrement la poutre. Mais quand je relis le texte, je me dis, mais comment moi, avec une poutre dans l'œil, je peux voir un petit défaut chez l'autre? Vous avez pensé un petit peu à ça? Vous savez déjà, quand j'ai un grain de sable dans l'œil, je vois rien du tout. Alors imaginez une poutre. Non mais. Et j'ose prétendre que je suis capable de discerner hein, ce qui ne va pas chez l'autre. Eh oui. Ah ça, c'est difficile, ça. C'est vrai que, comme je viens de le dire, un grain de sable nous aveugle, nous irrite, et plus vous savez, on frotte. Hein. Peut-être pas vous, mais moi je frotte. Et plus vous frottez, plus ça vous irrite encore davantage, quoi. Eh oui. Et moins vous voyez. Oui. Alors, une poutre, forcément, ça doit nous aveugler. Et vous savez, quand on est dans l'aveuglement, ben, ça veut dire qu'on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Et ce ne serait donc pas à tort que nous aurons vu. J'ai mis ça entre guillemets. Vu un fétu dans l'œil de notre frère. Petite brindille de paille. Ouais. Et au lieu de suivre l'impulsion de notre cœur charnel qui nous porte à juger les autres, considérons bien ce que nous avons à faire, nous, premièrement. C'est-à-dire de nous juger nous-mêmes et vivre dans le jugement de nous-mêmes. Ce matin, nous avons pris la scène. Vous avez pris la scène ce matin. Et vous connaissez le texte de Corinthiens? Qu'est-ce qu'il nous dit? Examinez-vous pour savoir si vous êtes ben, en état de prendre le pain et le vin. Examinez-vous. Il ne dit pas, demande à ton frère si je suis digne de prendre le repas du Seigneur. Ça ne se fait pas. Parce que prendre la Sainte Cène, ben, maintenant, ça vient, c'est courant, quoi. Tout le monde se lève, sans distinction. Converti, pas converti. Tout le monde prend la Sainte Cène. Mais ce n'est pas un rituel, ça. Ce pain et ce vin, ce n'est pas un rituel. C'est nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous personnellement. Est-ce que tu es en conscience de savoir ce que vraiment ce que le Seigneur a fait? Dans ces petits gobelets, cela représente le sang qui a coulé du Seigneur. Qui a coulé de son corps, de son côté, les épines qui ont meurtri son front. Et le pain, c'est le corps brisé qui a reçu un coup de lance. Et cela, Christ l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Vous tous qui êtes ici, il l'a fait pour vous. sans exception. Alors prenez bien en considération ce pain et ce vin que nous prenons ce matin, que nous avons pris. Ce n'est pas pour rien que nous sommes mis en garde pour cela. Oui, ôte premièrement de ton œil la poutre. Et si nous l'ôtons, mes frères et sœurs, alors nous aurons une vision spirituelle nécessaire pour nous occuper, s'il en est besoin, du mal qui peut se trouver chez notre frère ou notre sœur, et cela dans un esprit de grâce, dans un esprit d'amour, et avec la parole de Dieu qui nous enseigne, en nous plaçant sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, pour que véritablement nous ayons une parole d'encouragement et non pas de jugement. Oui, mes frères et sœurs, c'est ce que le Christ nous apprend, parce que lui, il est parfait. Il est divin. Il nous enseigne. Hélas, malheureusement, combien peu nous savons le réaliser, perdant de vue Jean 13, 17, et quelles difficultés humiliantes surviennent si fréquemment entre des frères et des sœurs, nous avons évoqué cela avec notre frère et notre sœur hier soir. Oui, parce que nous avons oublié ce premièrement, et cela porte à notre confusion à chacun d'entre nous. Oui, que le Seigneur nous bénisse, mes frères et sœurs, ce matin. J'arrête mon message volontairement. Si vous voulez prendre la suite, ça sera la prochaine fois. Dieu voulant, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que retenez, ce que vous avez besoin de retenir ce matin, ce que le Saint-Esprit a placé sur vos cœurs, pour que vous soyez renouvelés, régénérés, et qu'il vous dise, ah, ne dites pas seulement, ah, la prédication, elle était bonne ce matin. Vous savez, je l'entends presque à chaque fois que je prêche. Vous savez, ça ne me fait plus rien. Un frère avait dit, quand on lui avait dit, ah, la prédication, elle était super. Et le frère a répondu, oui, le diable l'a déjà dit. Donc, voilà, je crois qu'il faut faire très attention avec cela. Si elle vous a fait du bien, profitez-en, enrichissez-vous avec, perfectionnez-vous de la parole de Dieu et soyez bénis et encouragés. Que le Seigneur vous fasse passer aussi des bonnes vacances. Et pour ceux qui reprennent, eh bien, bon courage pour le boulot, quoi. Voilà, on va se lever et puis on va remercier Dieu.